Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un été sur France Culture, une semaine durant, Sophie Chassa s'était penchée sur les personnages les plus importants, les essentiels en somme, qui peuplent les aventures d'Astérix le Gaulois. Astérix lui-même, on s'en doute, la petite star de la bande dessinée française. Obélix, évidemment. Obélix, une petite psychanalyse de la bande dessinée. Abraracoursix, le chef. Abraracoursix ou la politique. Abra le corps. Le druide, Panoramix. Ou les secrets du savoir magique. Et enfin, vous savez, celui qui habite dans une cabane, dans un arbre. Ce personnage dont la voix est si éprouvante. On le sait puisque l'on a lu les aventures d'Astérix et donc puisque la biographie du barde Assurance Tourix nous est connue. Assurance Tourix, ou l'art et la culture en question, par Sophie Chassa, réalisation Doria Zénine, première diffusion sur France Culture le 14 août 2008. Assurance Tourix, l'auteur du tube fameux Menhir Montant.
Le conseil peut sembler paradoxal pour ouvrir une émission radiophonique, mais munissez-vous de persil. Non pas pour mitonner votre plat de ce soir, mais pour vous boucher les oreilles si nécessaire. Oui, l'émission d'aujourd'hui est consacrée au barde Assurance Tourix. Et les lecteurs avertis de la BD Astérix le Gaulois savent bien que, placé dans les oreilles, cette herbe est le meilleur rempart contre les cris innommables de ce chanteur un peu particulier. En effet, si la hutte du barde est haut perché, sa voix l'est aussi, et même un peu trop haut perché. Avec son nez en trompette, il chante comme une crécelle, pire encore. Il est à tout le village ce que la Castafiore est au capitaine Haddock dans les aventures de Tintin, une véritable torture. De sorte que l'artiste de la communauté est soumis au diktat de véritables maîtres chanteurs. « Non, tu ne chanteras pas », dit le forgeron C'est Automatix sous la menace d'un coup de marteau, séquence réglée comme du papier à musique. On le dit prétentieux, oui, un peu, et pourtant on s'y attache à cette tête de Turc à qui on confisque sans arrêt la voix. Peut-être même que c'est un génie en avance sur son temps, car il cadre avec l'air de notre temps. Ça, vous allez le découvrir tout à l'heure. Un barde bien plus poétique qu'il n'y paraît, puisque quand il passe le balai sur le plancher de sa hutte, ce sont des notes de musique qui dégringolent et font office de poussière. Il est en tout cas certain qu'il est le personnage tout trouvé pour notre exploration du jour dans le monde astérixien, la vision de l'art et de la culture véhiculée par la BD Astérix le Gaulois. Notre invité est l'arverne Christian Moncelet, que je vous présente dans un instant. Mais on commence en musique sur l'air d'un barde moderne, Alan Stivell.
Tu diamante avrai gisère, dit aussi de gléouette. Tu diamante avrai gisère, dit aussi de gléouette. Un histoire smarte nous, la 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 la
Christian Moncelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en langue et littérature française du XXe siècle. Vous avez mené une partie de vos recherches sur l'image et l'humour et publié, entre autres, un ouvrage très réjouissant, Les mots du comique et de l'humour aux éditions Belin. Vous êtes également membre du centre de recherche sur le comique, le rire et l'humour, et aussi d'un autre centre de recherche, l'ERIS, consacré à l'image satirique. Alors Christian Moncelet, c'est d'abord un attachement très concret qui vous relie à nos ancêtres les Gaulois, puisque vous habitez en pays Arverne, à l'ombre du plateau de Gergovie, là où s'est donc tenue en 52 avant Jésus-Christ la glorieuse victoire de Vercingétorix sur César. Dites-nous un peu à quoi ressemble cet endroit.
C'est un endroit merveilleux, vous n'allez pas me faire dire le contraire. Oui, tout à fait, le plateau de Gergovie se situe dans ma commune. J'en profite pour dire que j'habite le village de La Roche-Blanche, rue Cadou, c'est-à-dire le nom du poète breton, non bretonnant, sur lequel j'ai aussi travaillé et fait une thèse. Je nage en pleine celtitude, si vous voulez. Et puis alors, je voudrais aussi préciser que je suis seul à répondre à vos questions, oui, et à m'entretenir avec vous, mais j'ai aussi travaillé avec ma femme pour cette occasion, Margota Monceletta, qui connaît son Astérix sur le bout du digitus.
Alors, si on revient au personnage qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit d'Assurance Tourix, donc le barde. Et voici comment il nous est présenté dans la légende qui accompagne sa svelte silhouette au tout début des albums. Alors, je lis ce petit encadré. Assurance Tourix, c'est le barde. Les opinions sur son talent sont partagées. Lui, il trouve qu'il est génial. Tous les autres pensent qu'il est innommable. Mais, quand il ne dit rien, c'est un gai compagnon fort apprécié. Alors d'abord, en quelques traits, est-ce que vous pouvez nous croquer sa physionomie, son portrait physique, Christian Moncelet ?
Écoutez, c'est un Gaulois qui, autant qu'on puisse le savoir, est assez proche de la réalité, par sa taille, par son allure, par ses vêtements. Il a une belle chemise à carreaux bleus et d'après ce qu'on sait, ce motif et ses couleurs étaient tout à fait dans le goût des Gaulois. Vous avez remarqué sa chevelure ?
Oui, un beau brushing.
Ouais, elle n'est pas nattée. Hein, oui, et d'ailleurs, ça aussi, c'est beaucoup plus proche de la réalité. C'est tout à fait conforme à ce que l'on sait. Donc, c'est un barde, au fond, qui est un Gaulois très, très crédible.
Hein, très crédible, oui, tout à fait. Mais différent de ses voisins.
Ah oui, alors ça, c'est quand même un barde. Donc, oui, on va le voir, il est très différent de ses voisins. Et puis, il a des instruments. Je dis des, alors que dans le dessin, il a seulement sa lyre. C'est vrai que c'est son instrument de prédilection, les Gaulois connaissaient la lyre. Mais il a deux autres instruments, une sorte de cabrette, enfin une cornemuse. C'est d'ailleurs comme ça qu'il apparaît dans le premier volume. C'est une cornemuse rapiécée, d'ailleurs c'est assez bizarre. Et puis il a aussi le carnix. Et dans deux ou trois vignettes, je crois que c'est dans Astérix et les Normands, et puis dans le domaine des dieux, on le voit. Dans le domaine des dieux, c'est quand il emménage le nouvel appartement. Donc, on le voit avec ces trois instruments-là.
Mais c'est effectivement la
lyre qui est son instrument privilégié, hein, c'est sûr. Alors, il y a aussi son nom qui est quand même pour le moins curieux, parce que Assurance Tourix, bien entendu, pour un esprit moderne, ça signifie, c'est rapproché de assurance touriste. Or, une sorte d'antinomie avec la vocation de poète, même si c'est un poète, un barde officiel. Bon, qui dit poète, dit quelque part aventure avec le langage. Enfin, je veux pas réquisitionner les grands mots, mais comme dit René Char, que le risque soit ta clarté. C'est un petit peu ça, le vrai poète. Et alors, donc, ce poète qui a cette vocation d'aventure avec le langage, il porte le nom d'Assurance Tourix, qui connote plutôt une sorte de matérialisme, de calcul, justement de calcul du risque.
Alors de préoccupation très terre-à-terre.
Et vous savez que même on écorche son nom, à un moment il y a un romain qui l'appelle Assurance Sautière Limitix.
Voilà.
Là c'est le comble. Alors, de quelle assurance s'agit-il? De quel risque s'agit-il? On peut se contenter, pour l'heure, parce qu'on verra plus tard que c'est plus complexe, disons d'une signification négative. Le barde, c'est l'assurance de risque majeur pour Louis.
Oui, parce qu'il chante de façon assez terrifiante.
Oui, c'est presque toujours la certitude d'une catastrophe musicale. Alors, précisons tout de suite, si l'on adopte l'appréciation des habitants du village, bon, mais aussi celle des Romains excédés qui vont quitter le domaine des dieux, celle des Normands, qui grâce à elle apprennent enfin ce qu'est la peur, mais on pourra songer pour tout à l'heure à une autre signification.
On va y revenir sur cette voix, oui. Cette voix innommable. Donc, je disais qu'il est assez différent des autres Gaulois du village par son physique. C'est pas un costaud, c'est pas un bagarreur non plus. Il prend assez peu part aux bagarres.
Tout à fait.
Et puis aussi, très concrètement, il tente de s'élever au-dessus de la trivialité de la vie quotidienne du village, puisqu'il habite dans une hutte un petit peu différente de celle des autres.
Voilà. Alors, donc, vous avez effectivement remarqué qu'il ne participe pratiquement pas au combat et aux bagarres. Il ne porte pas le casque guerrier. Le seul casque qu'il porte, c'est celui de sa chevelure. On pourrait dire une sorte de casque d'or, peigné en arrière. Puis alors, il avance, là, le nez en l'air. Vous avez très bien dit tout à l'heure, le nez en trompette. Fermant les yeux, un peu tel un grand inspiré. Et d'ailleurs, dans la zizanie, vous vous souvenez, il dit « Je ne me mêle pas de vos histoires ».
Oui, il est un petit peu à l'extérieur.
Eh oui. Et alors, et ça c'est très important pour la suite, il habite effectivement dans une cabane, dans un arbre. C'est beau finalement, c'est beau d'habiter là comme un fruit ou comme près du ciel, comme un oiseau. Quoi. Il est dans le compagnonnage direct des oiseaux. Or, on sait bien que les modulations sonores de l'oiseau sont assez proches de celles des hommes. Donc ce barde, c'est effectivement un drôle d'oiseau lyre, si je puis dire.
Alors, donc un drôle d'oiseau chanteur, et qui effectivement, socialement, est un barde, donc une sorte d'artiste lyrique, mais vous allez nous en dire plus sur ce statut du barde. Deux questions pour cela. Si on essaie de revenir à la réalité historique qui fonde l'univers gaulois, est-ce qu'il existait un art gaulois ? Déjà, première question. Et plus spécifiquement, qui étaient les bardes et quelle était leur fonction dans la société ?
Bah écoutez, oui, il existait bien un art gaulois, mais c'est vrai que la civilisation gauloise était essentiellement une civilisation pour la culture qui était orale. On connaît un certain nombre de statuettes, de fibules, etc., hein, de décorations.
Mais il en reste assez peu.
Mais il en reste assez peu, effectivement. Enfin, il en reste quelques-unes en Auvergne, elles sont exposées dans nos différents musées, je vous l'assure. Alors, chez les Gaulois, le barde avait une grande importance parce que c'était lui qui animait les banquets, hein, avec ses chants, avec ses contes, qui racontaient d'ailleurs souvent des hauts faits des ancêtres. Donc c'était un peu l'équivalent de l'aède, quoi, une sorte d'aède celte, avec une éminente fonction mémorielle. Bon, je dis que c'était une sorte d'aède mémoire, si vous voulez, pour la société.
Beau jeu de mots.
Oui, ben je vous remercie. Mais Assurance Torix, qui devrait avoir cette fonction, est en plus un enseignant.
Oui,
bon,
c'est vrai.
C'est-à-dire un rôle d'ailleurs qui était plutôt dévolu aux druides chez les vrais Gaulois. Donc il transmet le savoir. Et dans ce domaine, il n'est pas contesté. On peut dire qu'il enseigne aussi juste qu'il chante faux. Et vous vous souvenez de la première question qu'il pose, ça doit être dans le premier album, quand il est présenté dans son acte d'enseignant. Il pose à ses petits écoliers « Qui étaient vos ancêtres ?» Alors, c'est évidemment très drôle, mais en même temps, c'est très profond, parce que c'est la marque que le barde, ici, en tant qu'enseignant, fait un lien entre le passé et le présent. Et dans la mesure où le barde aussi, comme le druide était une sorte, si j'ose encore ce mot valise, d'interprète, le barde est un lien entre les hommes et le divin. Donc il y a une sorte de double vocation à relier des réalités, les hommes entre eux, les hommes avec les ascendants et les hommes avec la transcendance. Ça n'est pas rien. Et alors du coup, si telle est l'importance de cette fonction, le fait qu'Assurance Torix soit exclue de façon récurrente du banquet festif n'en est que plus étonnante.
Oui, puisqu'effectivement, vous nous disiez que le barde chantait lors des banquets les hauts faits des guerriers, des ancêtres.
Oui.
Et Assurance Torix, dans sa fonction, est complètement renversée, bâillonnée à la fin de chaque album, puisque c'est vraiment le grand leitmotiv que tout le monde attend.
Voilà, on va revenir sur ce thème. Il faut ajouter une chose pour la fonction sociale, c'est qu'en plus, Assurance Torix fait partie du Conseil des Sages. Il veille à un moment à l'égalité du temps de parole dans un débat. Donc c'est aussi quelqu'un qui est d'une certaine façon un facteur d'ordre, un facteur d'équité. Donc ça fait de nombreuses fonctions positives.
Mais malgré tout, si on revient à ces êtres respectés qui étaient les bardes et au sort qui est réservé à Assurance Torix, est-ce que vous pouvez nous, pour le plaisir, parce qu'on le sait tous déjà, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui lui arrive quand il essaie de placer une note à ce pauvre Assurance Torix ?
Ah ben, écoutez, ça commence dès l'apparition, si j'ose dire, dans la série. Quand il est présenté, ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est très clair. C'est le seul qui fasse l'objet d'une sorte de remarque narquoise du narrateur, hein, qui s'exprime dans cette disproportion très étrange du partage entre lui qui est fier de son talent et puis tous les autres qui ne l'apprécient pas. Ou quand on parle de partage, on attend quelque chose, disons, de plus équilibré. Et il y a aussi l'adjectif innommable dans cette affaire qui est, je trouve, très ironique en l'occurrence, puisque elle est appliquée à un être qui est censé maîtriser la parole. Donc si celui qui manie bien les noms est innommable, oulala, où va-t-on ? Alors, rappelez-vous aussi sa première entrée en page, si j'ose dire, donc dans le premier album. Il est salué par un « aïe ».
Oui.
Et en plus, prononcé par Astérix, le plus courageux, c'est dire. Et puis, on le voit faire immédiatement le vide autour de lui. Donc, il y a, si vous voulez, toute une série d'approches, de mots ou d'images qui nous le présentent défavorablement, dès le début. Donc, il est déjà victime, j'allais dire, dans la façon dont il est présenté, des auteurs eux-mêmes. Hein, enfin, bon. Et puis, alors, après, voilà, il y a les rosseries, les moqueries. Comme je dis, il essuie des arrosages fréquents, verbaux.
Ils sont assez méchants même avec lui.
Ah oui, non mais c'est...
Ils ne lui épargnent pas grand-chose.
Oui, mais il le dit, c'est Uderzo qui lui fait dire ça dans La Rose et le Glaive. On me tape à tout bout de champ, mais en jouant sur le mot champ, C-H-A-N-T, bien sûr. D'ailleurs, on pourrait préciser à tout premier bout de champ, puisqu'il n'a jamais la possibilité de finir la chanson qu'il a commencée. Alors, il y a Astérix et Obélix qui parfois se moquent de lui. Hein. Il le compare, il me semble, une fois à un cochon qui chante, enfin quelque chose dans ce goût-là. Mais évidemment, le préposé à l'assommage, c'est le forgeron, c'est Automatix. Il est constamment en train, comme on dit, de le marquer à la culotte. Et alors, il lui assène, c'est même plus qu'un coup de marteau, c'est un coup de masse, hein, c'est la masse du forgeron, hein, sur sa tête, au moindre soupçon d'un désir d'en pousser une. Et alors, faute de masse, vous savez que le forgeron prend parfois ce qu'il trouve, hein, ce qu'il a sous la main, et il lui arrive d'assommer le pauvre Assurance Turix avec un poisson, ou alors simplement avec les poings, bien sûr, à main nue.
Alors, pour en juger, on va écouter une fois pour toutes l'innommable voix d'Assurance Turix.
Menhir, montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon âme, toute
non, tu ne chanteras pas, Assurance Tourix, non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas.
Bon, allez, quoi, arrête de taper, tu vois bien que j'ai arrêté de chanter.
Mais ne recommence pas, hein, parce que sinon je recommence aussi. Je t'ai déjà dit que ta façon de chanter me cassait les oreilles.
C'est incroyable que ce barbare qui tape comme un sourd soit aussi délicat du tympan.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église.
Alors voilà, on a entendu deux versions d'une même chanson, la version Assurance Tourix en 50 avant Jésus-Christ, Ménilmontant, et puis la version 20e siècle de Charles Trenet, Ménilmontant. Puisque effectivement, si on revient, Christian Moncelet, à notre barde, vous disiez tout à l'heure que les bardes avaient des pouvoirs de divination, qu'ils comme ça faisaient le lien entre les humains et les dieux, qu'ils avaient une fonction mémorielle et en même temps qu'ils devinaient l'avenir. Et il semble effectivement qu'Assurance Tourix n'ait en tout cas retenu qu'une seule des fonctions du barde, et c'est bien celle-ci, le pouvoir de deviner 2000 ans à l'avance les grands succès populaires du XXe siècle.
Oui, alors, on va le développer. Je voudrais juste faire une petite remarque pour revenir un petit peu en arrière. Notre Assurance Tourix, là, qui peut être soit un génial incompris ou un artiste peu doué, effectivement, il peut rappeler des types comiques. C'est-à-dire que il y a en littérature des exemples de méchants poètes et de méchants chanteurs. Comme aurait dit Willy, il y a des artistes qui poètent plus haut que leur lutte. Et on pourrait se demander si Assurance Story n'est pas de cela. Il y a un peu du Vadius, il y a un petit peu de l'Oronte. Et puis alors les chanteurs fous ont toujours fait rire. Donc il y a, si vous voulez, dans la littérature ou la paralittérature, un type comique qui est même ici double, comme Assurance Story, c'est le méchant poète et le méchant chanteur. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Goscinny et Uderzo sont pétris de culture. Et donc, toutes les approches, qu'elles soient anthropologiques, philosophiques ou autres, sont évidemment bien fondées. Mais il ne faut pas qu'elles excluent, disons, des rapprochements avec, avec le comique universel, avec les procédés du comique. Tout ça est complémentaire. Alors, c'est très bien d'avoir commencé par Charles Trenet, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'air de chansons des années 60, 70 qui sont audibles dans le répertoire d'Assurance Torix, mais aussi dans le répertoire d'autres personnages qui chantent.
C'est un peu un yéyé. Assurance Story, il multiplie les tubes des années 60.
Il y a quelques airs yéyés. Goût du Rix, ce serait un petit peu plus yéyé. Oui, parce que Assurance Story, d'ailleurs, revendique la bonne chanson par rapport au rythme un petit peu trop trépidant que Goût du Rix, lui, adore. Mais, si on voulait faire la liste, c'est impressionnant.
Oui, donnez-nous des exemples.
Alors, Brel, Jacques Brel, bien entendu. Alors, je vous ai apporté des sangliers. Chacun sait que c'est évidemment l'équivalent de je vous ai apporté des bonbons. Il y en a une de Brel qu'on cite moins souvent, c'est Au Suivant. Il y a Au Suivant, c'était le leitmotiv d'une chanson. C'est lorsque Astérix se bat avec des spectateurs, vous savez, pour gagner de l'argent, hein. C'est dans l'histoire du chaudron. Eh bien, il se bat avec successivement 120 adversaires. Or, et il crie Au Suivant, Au Suivant, Au Suivant. Or, il y a une chanson de Brel en 64 hein, qui était Au Suivant, c'était le titre, et le texte disait et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Bon, en fait, dans la chanson de Brel, il s'agit d'un abattage, certes, mais c'est celui de la besogne à la chaîne dans un bordel ambulant d'une armée en campagne. C'est pas tout à fait le même registre. Alors, vous avez Sheila, la petite fille de Français moyen.
Exact.
Eh bien, la petite fille de Français moyen de Sheila change de sexe. Quand le barde chante pour le petit garçon, hein, pour Pépé, je ne suis qu'un fils de petit Gaulois moyen, Astérix en Hispanie. Les élucubrations d'Antoine. Bien sûr, ma mère m'a dit Assurance Story va te faire tresser les cheveux, ta-da-da-da, papa. Et notre chère Dalida, dar la dir la dada. Eh bien, quand le Assurance Story fait fuir les habitants du domaine des dieux, qu'est-ce qu'il est en train de chanter? J'aime les forêts dir la dada, parce qu'il y a des sangliers dir la dada. Là, il faudrait que je chante complètement faux, mais j'ai pas trop d'efforts à faire. Et les sangliers, c'est bon dir la dada, surtout avec des champignons, da-da-da-da. Et vous avez même Mamie Blue, hein, qui devient matrone bleue. Toute la pluie tombe sur moi.
Ah, ça, c'est Sacha Distel.
Ça doit être dans Shéréazade. Mais il n'y a pas que le répertoire des années 60-70. Vous avez aussi des chansons plus anciennes. Bruant, Nini Pot de Chien. Valutesse, on l'aime bien, Nini Pot de Sanglier. Bien sûr, il faut adapter. Et je me demande parfois s'il n'y a pas des allusions plus pointues qui risquent de passer à la trappe parce qu'on ne s'en souvient pas. Dans La Rose et le Glaive, à un moment, Maestria énerve copieusement Astérix et elle dit c'est qu'il est encore plus beau quand il est en colère. Or, dans une chanson réaliste qui s'appelle Petit Bosco, qui était composé par Scotto et que chantait Berthe Silva, il y avait des ouvriers qui se moquaient d'un petit bossu. Et le narrateur disait « Il n'est pas bon quand il est en colère ». Et c'est une chanson qui était très très connue, même je pense encore dans les années 60 et au moins de gens de la génération d'Uderzo et de Goscinny.
Alors pour prolonger votre chansonnette et pour le plaisir, on va écouter non pas donc les reprises mais les antéprises d'autres bardes dans l'esprit Assurance Tourixien.
Nous écoutons le barde Tournedix qui va nous chanter « Si j'avais un dolmen ».
J'avais un dolmen, je cognerai le jour, je cognerai la nuit, je passerai en morceaux, j'en ferai une gouttière et une belle étoile. généreuse. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh.
Donc un personnage, Assurance Tourix, qui est assez proche des jeunes lecteurs par ce renvoi à une culture populaire de la chanson. Et puis on va passer aussi à un autre thème, parce que c'est un personnage auquel les lecteurs se sont aussi attachés, du simple fait que dans les années 70, il y a toute une vogue celtique qui s'installe en France avec force et qu'elle perdure d'ailleurs relativement aujourd'hui. On a écouté au tout début de l'émission une chanson d'Alan Stivell, mais il y a, je crois, d'autres grands noms. Et alors, sous quel chanteur incarnait cette vogue celtique ?
Bon, ben, il est évident que Stivell a été une sorte de révélation fabuleuse. Hein, et entre parenthèses, d'ailleurs, c'est un Breton de la diaspora. Il est né aussi en Auvergne, à Rion, mais il n'y est pas resté très très longtemps. Mais enfin, donc Astérix, enfin du moins Vercingétorix et les Gaulois n'étaient pas loin. Et donc Stivell, qui était un musicien superbe, qui a joué essentiellement de la harpe celtique, il a modernisé, essayant de concilier la tradition et la modernité. Stivell a pris ce surnom, parce que c'est un pseudonyme, hein, qui signifie « source jaillissante ». Or, en matière de source jaillissante, il y avait un pionnier et une source d'une vigueur extraordinaire, c'était Glenmore. Hein. Oui. Et il y avait aussi quelqu'un qui est venu un petit peu plus tard, qui était Gilles Servat.
Oui, Gilles Servat.
Et dans une chanson qui s'appelle « Quiduche », qui date de 73, Servat fait en somme l'éloge du barde. Et vous allez voir qu'on est assez près à la limite du barde gaulois tel qu'il est vu, enfin, positivement, disons, dans cette civilisation, à travers Assurance Tourix. Servat disait ceci « Nous sommes de la terre et la mer ». Glen, mort,
oui,
terre et mort, barde qui passe sur la route, arrête-toi pour écouter nos doutes, puisse tes chants nous émouvoir, nous rendre l'ardeur de combattre, touche nos cœurs et fais-nous voir, fais renaître le feu dans l'âtre, que nous puissions nous reconnaître, nous-mêmes, et naître. Or, rendre l'ardeur de combattre, eh bien, mais c'est le but que poursuit Assurance Tourix, quand il se propose de chanter pour encourager tel ou tel, alors on ne veut pas l'attendre, lui faire clapper, certes, mais c'est une belle définition du barde, voilà. Alors, cette vogue celtique, c'est devenu, si j'ose dire, une grande vague, et puis le Festival de l'Orient, le Printemps des Sonneurs de Brest, toutes ces manifestations démontrent de nos jours le sérieux passionné et passionnant de ce renouveau celtique, qui est effectivement contemporain de la série d'Astérix.
Alors donc, Assurance Tourix, c'est l'artiste de la communauté, et par glissement, on en arrive aussi à une autre question, qui est celle de la représentation et des clins d'œil à l'art sous toutes ces formes qu'on trouve dans la BD Astérix le Gaulois. Alors, on va les passer en revue dans un instant, mais d'abord, écoutons l'extrait d'un film. Vous allez vite comprendre le rapport.
Oh, lâche-moi, lâche-moi.
Tu devrais attaquer mes gardes plus souvent. Le combat te donne de l'éclat. Tu deviens plus belle chaque fois que je te vois.
Et toi, tu deviens plus chauve.
Et plus occupé. À vrai dire, nous sommes très pris pour le moment.
Ne sens-tu pas la fumée ?
Nous avons été contraints de brûler la flotte égyptienne.
Pourtant, en général, les navires sont dans les ports. Avez-vous été contraints de les brûler dans les rues de la cité ?
Des navires marchands ont pris feu. Les mâts, en brûlant, sont tombés sur quelques maisons.
Dont une était la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, on vient de me le dire. J'en suis vraiment désolé. Maintenant, si tu permets, je te demande...
Je ne permets pas. Que fais-tu pour combattre l'incendie ?
Nous formons des équipes d'incendie avec des prisonniers égyptiens.
Oh, je vois. Les Romains ne font seulement que mettre le feu.
Que serais-tu échappé de la garderie d'enfants pour venir irriter les adultes ? Une autre fois, nous avons du travail.
Sers-toi du génie romain de la destruction. Démolis les pyramides, rase les cités. Comment oses-tu, toi et tous tes barbares, mettre le feu à ma bibliothèque ? Tu peux jouer les conquérants tant que tu veux, puissant César. Viole, tue, pille, anéantis des millions de vies humaines. Mais ni toi, ni aucun autre de tes barbares n'a le droit de détruire une seule pensée humaine.
Alors, c'est une version française, mais je suis sûre que vous avez reconnu ce personnage en colère, Christian Moncelet.
Ah oui, ça a d'où l'air d'être une certaine qui a un nom qui rime avec acariâtre, non?
Voilà, exactement. Voilà. C'est Cléopâtre. C'était un extrait du Cléopâtre de Mankiewicz, qui est un film réalisé en 1963. Et on sait que, par ailleurs, que l'album Astérix et Cléopâtre, qui n'est sorti qu'en 1965, avait été prépublié dans Pilote, dans le magazine Pilote, dès décembre 1963. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence, un hasard?
Et puis quand on voit la couverture du premier album, il est difficile quand même de ne pas faire le rapprochement. La photo de l'affiche, le visuel de l'affiche, qui représentait Cléopâtre allongée, et puis un petit peu en arrière César et Marc-Antoine, et pastiché, parodié avec la Cléopâtre effectivement allongée, et puis Astérix, excusez-moi du peu, Obélix à la place de Richard Burton quand même. Bon, et puis alors il y avait un autre clin d'œil, c'est sur la couverture donc du premier album, la première édition. Vous aviez en bas de la couverture la plus grande aventure qui ait jamais été dessinée. Et puis, pour parodier la publicité pour la gigaproduction qui était Cléopâtre, vous aviez une liste impressionnante, 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 42 crayons à mine grasse, un crayon à mine dure, 27 gommes, etc. Bon,
et 67 litres de bière.
Oui, 67 litres de bière, vous avez raison. Mais bon, comme il faut dire qu'il faut boire modérément, je m'étais arrêté avant, mais enfin bon, vous assumez. Alors cet étalage des moyens mis en œuvre, vous voyez, correspondait effectivement à la publicité de l'époque. Il est vrai d'ailleurs que ce film, je crois, détient encore un certain nombre de records.
Enfin, oui, c'était le film de tous les superlatifs.
Le film de tous les superlatifs. Je ne parle même pas du cachet particulièrement grassouillé d'Elizabeth Taylor.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres clins d'œil cinématographiques dans ces aventures d'Astérix le Gaulois?
Il y en a, bien sûr. J'allais presque dire autant qu'il y a de clins d'ouïe avec les chansons. D'ailleurs, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais c'est un moyen, la chanson, de faire un sort aux anachronismes sonores. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Et justement, il y a des anachronismes visuels. Mais si on ajoute, avec le barde, les chansons, on ajoute une palette de nouveaux effets comiques. Alors, les références, les allusions culturelles à d'autres films, bien sûr. Vous avez le Marius de Pagnol dans la partie de cartes, hein, dans le Tour de Gaulle. Mm-hmm. Vous avez une grande vignette oblongue dans Astérix chez les Helvètes qui est une sorte de beau clin d'œil au Satyricon filmé par Federico Fellini. En plus, le nom du responsable des orgies de Garovirus s'appelle Fellinus. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement. Puis alors, vous avez des références aussi aux arts plastiques, à la peinture.
Alors, donnez-nous des exemples.
Vous avez alors la fameuse leçon d'anatomie du docteur Tulpe, qui devient une sorte de scène de divination, comme autrefois les aruspices la farfouillaient l'avenir dans les viscères d'animaux. Et c'est un devin qui interroge le message d'un poisson. Oui, c'est le devin. Vous avez le radeau de la Méduse de Géricault.
Oui.
Ah, c'est très, très intéressant, le radeau de la Méduse, parce qu'on voit très bien comment une image en appelle une autre. Et ça, c'est très, très 20e siècle. Donc, vous avez dans Astérix les Légionnaires une vignette où il y a le radeau de la Méduse avec les pirates qui sont sur ce radeau, mais cet effet visuel est relayé par le jeu de mots du chef des pirates qui déclare « je suis médusé ». Alors, c'est assez fréquent que Goscinny et Uderzo jouent à la fois sur l'image et sur le texte au niveau de l'humour. Mais comme un clin d'œil en appelle un autre, Alain Chabat a repris cette image et l'a filmée dans son Astérix et Cléopâtre, avec les pirates qui font naufrage. Vous avez aussi le fameux tableau de Hyacinthe Rigaud qui représente le roi soleil. Et bien là, c'est dans le Grand Fossé, c'est Crégationix. Il prend cette pose parfaitement reconnaissable. En plus, au cas où on n'aurait pas compris, on lui fait dire « le village, c'est moi », qui est évidemment le démarquage de l'État, c'est moi.
Et dans Astérix chez les Belges,
alors ça c'est très intéressant, la série chez les Belges, parce que on voit très bien comment un certain nombre de références culturelles sont des marqueurs identitaires. C'est-à-dire, c'est une occasion quand on va dans un pays ou dans une région, pour Uderzo et Goscinny, de promouvoir, si j'ose dire, les richesses locales. Et dans le cas de la Belgique, par exemple, si vous prenez Astérix et les Belges, alors vous avez à la fin un superbe remake, une sorte de presse, pas de pastiche parodique. mais du repas de noces de Bruegel l'Ancien. Bon, vous avez aussi une petite vignette avec les Dupont-Dupont, hein, oui. d'Hergé. Donc c'est un petit clin d'œil au grand maître de la BD. Bon, le mannequin Peace, bien entendu. Alors là, c'est très astucieux, au lieu d'avoir la statue, c'est le petit gamin que l'on voit en blondinet bouclé, là, et qui à un moment sort de la maison, manifestement pris d'un besoin urgent d'uriner. Voilà. Vous avez aussi la pétulante Annie Cordy, qui est tout à fait reconnaissable sous les traits de...
La femme du chef Nicotinet, belge.
Le chef Geuze Lambix, qui est évidemment le nom pas du tout caché de la bière forte, la Geuze Lambic. Et vous avez même aussi une référence historique, ça fait partie de la culture au sens large, avec l'évocation de la bataille de Waterloo.
Sur plus de 6 pages, je crois.
Et oui. Donc... Il y en a des références, il y en a...
Il y a aussi des références littéraires. Ah oui. Bon, mais alors le temps passe, donc on va peut-être s'arrêter, même si il y a du Shakespeare, il y a du Don Quichotte...
Il y a du La Fontaine, il y a du Cyrano de Bergerac, il y a du Hugo, bien sûr, Waterloo, ça devient Waterzoï, Morneplat.
Voilà, donc il y a tout cet ensemble de clins d'œil qui sont faits à l'art et à la culture en général, par Goscinny et Uderzo. Mais ils se moquent aussi bien largement de l'art de leur temps et de ses dérives. Alors je pense ici notamment en particulier à une parodie qui est faite dans l'album Astérix et le Chaudron d'une certaine forme d'expression théâtrale, puisque dans cet album, Astérix et Obélix se retrouvent acteurs, engagés comme acteurs. Alors est-ce que vous pouvez juste nous rappeler cet épisode et puis nous dire à quoi ça fait référence, cette drôle de scène?
Oui, donc, vous savez, Astérix est obligé de trouver de l'argent parce que malheureusement, il avait la garde d'un chaudron que lui avait confié Moral et l'Astix, pour échapper aux impôts en plus. Et donc, l'honneur exige que ce brave Astérix retrouve de l'argent. Alors... tous les moyens sont bons, et notamment, effectivement, ils rencontrent sur leur chemin, devant un théâtre moderne, un metteur en scène qui leur propose d'être acteur. Et alors, Astérix et Obélix, parce qu'Obélix est de la partie, n'ont jamais été comédiens, etc. Mais justement, c'est très très bien, au contraire, le metteur en scène explique bien que loin d'être un désavantage ou un handicap, c'est au contraire magnifique. Alors, effectivement, on se dit... Qui est visé? Alors, on se dit, est-ce que le nom du metteur en scène en question nous aiderait? Et bien là, pour le coup, il ne nous aide pas, parce que c'est un nom que l'on peut expliciter, c'est Eleonoradus. Mm-hmm. En fait, c'est une actrice, qui est derrière, enfin, le nom d'une actrice, Eleonora Duse, une actrice italienne qui était à peu près, disons, l'équivalent de notre Sarah Bernhardt, donc quelqu'un qui n'était pas du théâtre moderne. Mais ça, je pense que ça fait partie de l'humour d'Uderzo et de Goscinny, de mettre ce qu'on appelle des contraptonymes, c'est-à-dire des noms qui ne sont pas adéquats, qui sont justement en opposition avec la personnalité réelle de celui qu'ils portent. Alors, ce metteur en scène, effectivement, leur propose de jouer, et on va les voir sur plusieurs vignettes, embrigadés dans une aventure théâtrale qui ne peut pas ne pas faire songer à celle du Living Theatre. Mmh. Alors, on a plusieurs indices de tout cela. Si on regarde la tête du metteur en scène, il a des trianguleux coupés à la serpe, si j'ose dire, qui rappellent un petit peu ceux de Julian Beck, le créateur du Living Theatre, donc une troupe américaine.
C'est des années 60.
Ah oui, années 60. Enfin, alors, Beck a commencé dans les années 50 aux États-Unis, mais il s'est produit en Europe et notamment en France, essentiellement à la fin des années 60 et notamment en Avignon. Ils ont fait scandale et fureur en Avignon. Alors, pourquoi on peut penser que c'est effectivement le Living qui est satirisé par Uderzo et Goscinny? Ce sont les thèmes qui sont évoqués. Alors, vous avez un moment dans la pièce, quelqu'un qui réclame des orgies, des orgies, des orgies. Or, le côté sulfureux du Living, c'était entre autres de porter des valeurs très anarchistes, très libération sexuelle, où le corps était primordial, le texte devait être, mis à la marge, etc. Et bon, je peux pas raconter toutes les anecdotes, mais il s'en est passé des pas mûres, et des vertes et des pas mûres. Dans un spectacle, un comédien, alors c'était au début d'Antigone, parce qu'ils ont fait une Antigone d'après Brecht, c'est étonnant, où pendant 10 minutes, les comédiens étaient immobiles et muets au début du spectacle. Alors il y avait une dans Besançon, je crois, une spectatrice du premier rang qui était excédée par ce silence trop long, qui s'est levée et qui a commencé par injurier les acteurs. Et l'acteur qui était devant elle, immédiatement, lui a craché au visage, etc. Parce que ça faisait partie aussi de l'esthétique du living. Il y avait dans la représentation quelque chose de vivant, d'unique, et la réaction immédiate était importante. Donc l'acteur...
À corps et à cri.
Ah oui. Tout à fait. C'est tout à fait, exactement. Alors, l'acteur réagit, crache. La bonne femme qui avait son parapluie ouvre le parapluie et s'en protège comme d'un bouclier. Alors, une scène extraordinaire. Et là, voyant cela, alors c'est authentique, hein, l'acteur dégaine son membre viril et lui fait une réplique, si j'ose dire, superbement onanistique, comme pour prouver qu'il était pour la société, si j'ose dire, spermissive. Et évidemment, ça a fait un scandale, etc. Alors, voilà, le Living Theatre, c'était cette espèce de troupe extraordinaire en même temps. Hein, je veux dire, il faut reconnaître que c'était un souffle nouveau qui se réclamait d'Antonin Artaud, etc. Et alors, ça a suscité effectivement des réactions. Et parmi les détracteurs, bon, il y avait peut-être justement des gens comme Goscinny et Uderzo, mais parmi ceux qui étaient pour, il y avait probablement des bourgeois snobinards qui voulaient être dans le coup et qui étaient comme cette bourgeoise qui dit « Oh, c'est magnifique d'être insulté, etc. » Dans l'Astérix, tout à fait. Tout à fait.
Alors, on va écouter un extrait du Living Theatre où ils sont un peu moins violents que dans l'exemple que vous nous avez donné. Alors c'était la captation d'une pièce du Living Theatre de 1966, Mysteries and Smaller Pieces. Alors Christian Moncelet, on passe un petit peu rapidement sur cet exemple. Ce personnage d'Assurance Tourix, il est du côté effectivement de l'art et des excès revendicatifs. Il peut faire figure de révolutionnaire, même si ça n'est pas toujours positif. Et il semblerait être du côté de la barrière des artistes qui hurlent, qui chantent faux, dont on ne peut que se moquer. Et pourtant, on peut se demander si la voix du barde, elle n'est pas le symbole de l'artiste engagé. Et de l'intellectuel en quelque sorte qui s'écrit au bon moment quand tout va mal pour repousser la barbarie.
On a envie de le dire, mais je pense quand même qu'il n'est pas à l'initiative de ces actes. Je veux dire des actes bénéfiques, puisqu'il se trouve que Assurance Tourix est à plusieurs moments instrumentalisé par le petit malin qui est notamment Astérix. C'est-à-dire c'est Astérix qui utilise le barde pour chasser les Normands, pour chasser les Romains, etc. Ce désir de chasser l'adversaire n'est pas imputable à la volonté d'Astérix. Ce qui fait que, pour être engagé, ça me gêne un peu. Il faudrait être beaucoup plus, entreprenant pour qu'on puisse dire ça d'Assurance Tourix.
Mais il est là à des moments où il repousse certaines formes quand même de violence.
Et voilà, c'est pour ça que c'est important. Car du coup, Assurance Tourix, le nom, ça signifie peut-être que c'est effectivement une assurance contre tous les risques, et peut-être contre le risque majeur, qui est la désagrégation de la société. En somme, peut-être que ce serait le message profond et que La Sablière exprime très bien.
Bernard
La Sablière exprime très bien. C'est le message suivant, que Assurance Tourix, quand il est bâillonné, il est quelque part le bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui permet à la société d'éviter le risque majeur de la désintégration à cause des violences intestines.
Alors, ça, c'est dans la logique d'une lecture qui suivrait les thèses de René Girard.
Voilà, et franchement, ça tient la route, comme on dit, hein. Ça tient la route. À part que, on peut aussi se demander si, tout bonnement, alors je reconnais que là, c'est très terre-à-terre, Assurance Tourix est puni par où il a péché. Parce que, comme il s'extrait quand même de la société, il vit dans sa cabane. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la joliesse des notes. Oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il balaye les notes qui qui tombe sur un pauvre Gaulois qui est en dessous. C'est-à-dire que c'est quand même pas très sympathique. Je dirais qu'il y a une sorte de déficit de sociabilité et que peut-être ce déficit de sociabilité, on le lui fait payer. Il est mis en somme un peu au piqué. Alors, vous savez où il est mis au piqué? Il est mis au piqué...
au pied de l'arbre.
Au pied de l'arbre. Mais l'arbre c'est un piqué majeur. C'est un piqué majeur. Il est presque cloué au pilori. C'est à la fois le piqué du mauvais élève. Hein. Donc, on pourrait imaginer aussi que cette récurrence de l'exclusion momentanée, elle est, une sorte de principe de précaution. La société, des Gaulois là qui mangent, ne veut pas être importunée dans sa joie rieuse par les stridulations là de ce bar d'en délire. C'est un principe de précaution.
Voilà. Alors, on va terminer cette émission comme se terminent donc tous les albums d'Astérix sur cette image d'Assurance Taurix bâillonnée lors du banquet final. Christian Moncelet, merci.
Merci.
C'était Astérix, une BD dans tous ses états, une émission proposée par Sophie Chassa. Équipe de réalisation, Doria Zénine et Vincent Ronet. Pour son aide à la documentation, merci à Olivier Tossery.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 août 2008. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Sally free and easy, that should be her name. Sans